franceinter.fr.
CO2 mon amour, avec Delta D'Or, solution pour les économies d'énergie dans l'habitat résidentiel et les bâtiments.
Alors, une subvention à la pollution, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être une subvention directe, publique, donc donnée par l'État à une activité polluante, directe ou indirecte, ou ça peut être aussi une exonération fiscale ou une réduction de taxation sur des activités à caractère polluant, c'est-à-dire qu'ils ne payent pas le taux de fiscalité normal qu'elles devraient payer.
CO2, mon amour, Denis Chessy.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine, cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie, et qui n'a pas changé de montre parce que nous avons changé d'heure la semaine dernière. À la technique, il y a Sophie Moreno et Patrick Henry, et assisté de Stéphane Combes, c'est Fabrice Laigle cette semaine qui réalise l'émission. Ça soufflait sur l'Atlantique. Le golfe du Mexique et ses eaux chaudes sont heureux de vous annoncer la naissance de Sandy, ce bébé cyclone tropical né de la condensation de l'eau, de l'air froid en altitude et de la rotation de la Terre, rotation chère à Gustave Gaspard Coriolis, mathématicien français, et hop, Sandy lance l'essoreuse. Car Sandy a de l'énergie à revendre et en aura encore plus demain grâce au réchauffement de ses eaux puisées dans son berceau marin. Sandy se dresse, apprend et marche vite, fera hurler les chevaux de la mer. L'apocalypse de Saint-Jean de Patmos est en avant sur l'horaire. Est-ce l'ultime travail d'Hercule nettoyant les écuries d'Augias à grandes eaux? Est-ce la nature fâchée contre nous qui envoie l'artillerie? Le calendrier Maya qui joue à faire peur aux gogos avec un mois d'avance? Eh bien non, rien de tout cela, même pas la faute à pas de chance, si sauf un vent d'air froid qui descendait du Canada en même temps et qui a renforcé la force donc de Sandy. Que des événements en partie prévisibles, la nature lâche les gaz comme une cocotte minute et quand l'atmosphère est trop chaude, eh bien elle doit revenir à l'équilibre. Les soupapes régulatrices s'appellent ouragans, cyclones, tornades. Alors, en tout cas, une chose est sûre, les catastrophes climatiques indemnisées ont quintuplé en 30 ans en Amérique du Nord, furent multipliées par 4 en Asie et par 2 en Europe. Alors que les Médicanes, ce sont les petits ouragans méditerranéens, eh bien ils pointent leur nez. Alors les réassureurs sont aux premières loges et savent tout cela mieux que n'importe quel homme politique. Élections américaines et réchauffement climatique, bon non, circulez et laissez-nous forer en paix. Une autre chose est sûre, c'est que les morts n'ont pas le même prix médiatique à Cuba, Saint-Domingue, Haïti, New York, dans le New Jersey, et nous on ne fera jamais le tri des larmes dans cette émission. Alors on a bien songé à écrire une loi qui interdirait aux ouragans de pénétrer sur le territoire américain, mais on y a renoncé. Notre climat et celui de nos enfants est déjà écrit, mais celui de nos arrière-petits-enfants, pas complètement encore, donc on peut parfaitement s'adapter et agir. D'autant plus que l'eau est à craindre demain encore plus, il y en aura davantage. Ce que Emmanuel Leroy-Ladurie appelle d'ailleurs une gâchette climatique. L'eau qui noie, qui pourrit les maisons, ravage les moissons, croupit, fabrique le choléra, comme à Haïti. Mais je vous rassure, ce n'est pas Sandy qui est responsable cette année de la hausse du prix du champagne. Le coup de froid s'attrape par la tête et les pieds, le monde éternue, l'hiver commence en fanfare et pas besoin d'Halloween pour se faire peur. Alors au milieu de cette émission, on va parler de subventions polluantes avec Guillaume Saint-Denis. On va parler de la sortie du nucléaire, oui, mais en Allemagne. Du bon état écologique aussi des rivières, comment une rivière peut être un excellent indicateur. Enfin bref, ce sont des questions qui sont arrivées sur le répondeur. Et tenez, en voici une pour quelqu'un que vous connaissez bien, Jean-Marie Pelt.
Bonjour Denis, je suis Cécile, j'appelle du côté de Castelnaudary dans l'Aude. Je suis rentrée de vacances avec des piments dans mes valises et j'aimerais que Jean-Marie Pelt nous raconte un peu l'origine et l'histoire de ce condiment. Merci, à bientôt.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Le piment est invité et notre star aujourd'hui dans CO2, mon amour. Racontez-nous donc l'histoire du piment, s'il vous plaît. Ça vient d'où?
Alors, le piment, ça personne ne le sait, c'est l'épice la plus consommée dans le monde. On consomme du piment dans le monde entier. Ah. Et comme on consomme des baies, il y a donc une matière assez importante. Et en quantité, c'est l'épice la plus consommée. Elle vient d'Amérique. C'est très rare. Il n'y a que deux épices qui sont d'origine américaine. C'est effectivement le piment et c'est aussi la vanille. Et c'est Christophe Colomb qui l'a découvert à l'île d'Hispaniola, qui est actuellement donc Haïti et Saint-Domingue.
C'est premier voyage, deuxième voyage, on
ne sait pas. On ne sait pas bien d'habitude parce qu'il en a fait plusieurs. Oui. Mais c'est lui qui l'a ramené, d'accord, en tout cas. Donc on l'a connu très, très tôt. Et puis ensuite, il s'est répandu plutôt rapidement, en fait, parce qu'on lui a donné un nom qui était en rapport avec sa couleur.
Alors, ça vient d'où, vif. Piment, pigment ?
Ça vient de pigment. Ah, d'accord. C'est un dérivé de pigment. Pigment, c'est la couleur. Oui. Pigmentum en latin, c'est la couleur. Et comme le piment est très coloré, un rouge magnifique, on lui a donné le nom de piment venant de pigmentum latin. C'est de là que vient le nom.
Et d'autres noms ont été déclinés à partir de là ?
Alors, on a aussi donné le nom de poivron parce qu'il est poivré. Et ça a donné poivreau pour les gens qui ont une trogne rouge.
D'accord.
C'est toutes des déformations sémantiques qui se sont succédées. Puis après, il a pris le nom de paprika et il a été longuement utilisé sous ce nom-là. C'est le nom le plus courant d'ailleurs. Paprika étant une forme de piment qu'on cultive surtout en Hongrie. Ouais. Et ce piment est présent sous deux formes, deux espèces différentes. L'un qui est gentil, si l'on peut dire, c'est le piment doux. Et puis l'autre, qui est au contraire extrêmement agressif, c'est le piment dit enragé, qu'on appelle encore le piment de Cayenne. Et c'est celui-là, surtout, qui est utilisé comme une épice, disons, très robuste.
C'est une baie, comment ça se présente ?
C'est une baie, absolument. Oui. C'est une baie qui pend sur la plante et qui est colorée, mais pas forcément en rouge, elle peut être aussi en jaune. Elle peut aussi rester verte. Mmh. Et c'est pour ça qu'il y a tout ce jeu des couleurs qui a fait qu'on l'appelait comme ça, pigmentum. Les couleurs, c'est les couleurs qui ont donné le nom au piment parce qu'il y a plusieurs couleurs possibles.
Et qu'est-ce qui donne la couleur du piment rouge ?
Des caroténoïdes, comme les carottes, ou comme les tomates. C'est les mêmes types de principes. Et puis, on a trouvé dans le piment aussi de la vitamine C. Ah. Et il y a beaucoup de vitamine C dans les piments.
Plus que dans les oranges.
Plus que dans les oranges. Et quand on mange du piment doux, c'est-à-dire du piment vert qui n'est pas très agressif à la bouche, on a une ration de vitamine C très importante. Et en 1933, le chercheur hongrois Szent Györgyi, qui a le prix Nobel pour ça, y a découvert la vitamine C. C'est dans le piment qu'on a découvert la vitamine C. Oui. Et maintenant, on l'a fait par synthèse. Mais c'était la plante qui l'a fournie pour la première fois. Et puis ensuite, il y a la capsaïcine. Alors ça, c'est la substance qui vous arrache la bouche. Et s'il y a beaucoup de capsaïcine, le piment est enragé, comme on dit, du piment enragé. Et ce piment enragé sert à faire des extraits qu'on met sur du coton hydrophile pour faire de la fameuse ouate thermogène.
Ça, quand j'étais petit, on mettait...
C'est ça, c'est pour ceux qui nous écoutent et qui sont plus tout jeunes.
Non,
ils vont se souvenir de ce coton rouge qu'on mettait sur la poitrine quand on avait eu froid, pour se réchauffer, pour avoir une réaction forte. Et c'était évidemment à base de piment.
Oui.
Voilà. Et puis alors après ça, bon, le piment a fait et fait toujours une extraordinaire carrière. Alors, il est partout, sous des noms tout à fait différents. Il a connu, il connaît toujours un immense succès au Pakistan et en Inde. Moi, je me souviens avoir dîné plusieurs fois chez des collègues du Pakistan. Enfin, c'était héroïque, quoi. C'était vraiment... si on n'était pas mort, c'était tout juste, quoi. Il faisait 50 degrés. Alors, on était mort de chaud, puis on mangeait, puis on était mort d'empoisonnement. C'était épouvantable.
Vous n'avez plus aucun microbe, d'ailleurs. Vous
n'avez plus aucun microbe. C'était terrible. Alors, c'est la base de tous ces innombrables, mais très épicés... que la nourriture indienne du sous-continent nous offre. Et puis il y a le Tex-Mex. Alors ça, c'est le piment qui vient d'Amérique centrale, avec le chili con carne, parce qu'il appelle le chili là-bas. Alors c'est très à la mode, ça, actuellement, ça se développe beaucoup. Alors voilà une épice que je trouve moins sympathique, parce que je l'aime bien. Alors dans le harissa, c'est du piment aussi, naturellement, tout le monde l'aura bien compris.
Alors Jean-Marie, quand même, revenons en France, allons au Pays Basque, allons à Espelette, quand même, où vous avez donc ces murs donc recouverts de piment rouge, c'est extraordinaire.
AOC, hein. C'est une AOC, c'est un piment qui est protégé par un label de qualité.
C'est comme les Basques, ils sont AOC aussi.
Oui, c'est ça, oui. Alors, cette petite ville d'Espelette est intéressante parce qu'elle produit des religieux très connus.
Ça vous plaît, ça, oui.
Elle a produit Monseigneur Etchegaray, qui est cardinal à Rome, et qui a été celui qui a accompli toutes les missions extrêmement difficiles de Jean-Paul II en Chine, parce qu'il savait négocier. C'était un Basque qui savait négocier. Et puis elle a produit le père David, alors qu'il était un grand naturaliste, qui est parti lui aussi en Chine et qui a découvert le panda. Donc la petite ville d'Espelette est à l'origine de la découverte du panda grâce au père David. Voilà tout ce qu'on peut raconter sur le piment. C'est une belle histoire.
C'est très joli. Mmh. Écoutez, merci beaucoup Jean-Marie. Puis si vous trouvez en poche les épices, ne vous gênez pas. À la semaine prochaine, nous serons toujours aussi pimentés, mais ce sera une autre histoire. Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
Et ce sera donc une histoire pour vous, donc, qui nous avez appelé de Castelnaudary, ce piment. Et dans quelques instants, ça va être donc la deuxième partie, le deuxième dossier. Allez, on y va. On va parler des subventions polluantes. Qu'est-ce que c'est ? Mystère.
Sylvia, Sylvia, ne me regarde pas. Sylvia, il y a un truc qui va pas. Attends encore un peu, c'est mieux que je réessaye un coup. Et quand tu ouvriras les yeux, hi, pi, pou, bientôt, je sors du chapeau, bientôt, rideau, et tout bien comme il faut. Attends encore un peu, veux-tu, et tu applaudiras, non, tu ne seras pas déçu. Bravo, bravo. Un jour je serai beau, je serai beau, je serai beau. Oui, bravo, bravo. Un jour il sera beau, ton crapaud, ton crapaud. Lumière, plein feu. Attention, me voilà. C'est vrai, bientôt c'est le clou, et tu vas voir comme je te plais. Hi, pi, pi, pou, ou pas, ou peut-être pas du tout. Sylvia, Sylvia, reste jusqu'au bout. Attends, dernier tour, et puis. Peut-être tu m'aimeras, c'est mon dernier tour de magie. Abracadabra.
Bras, bien sûr, bien sûr, oui. Donc c'était Sylvia, Mathieu Bogart. C'est pas très clair entre avec Sylvia et Mathieu. On sent bien qu'il y a encore quelques hésitations amoureuses entre. Ça ne va pas être le sujet suivant, mais en tout cas, cet album était choisi par notre programmateur Jean-Baptiste Audibert.
Oui, c'est bien votre histoire d'environnement. La continuez à environner, nous on sera toujours contentes.
Ah ben venez, on vous suit, vous savez, on est prêt à vous pousser au derrière.
Hein. Vive l'environnement, allez-y,
oui, hop, allez, hop là.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Ah oui, on va continuer et on va parler de subventions polluantes. Question.
Mireille de Toulon, dans le Var. J'ai une petite question à vous poser. En ce moment, on entend beaucoup parler d'impôts, de taxes, de coupes budgétaires, Dans ce contexte, j'ai entendu parler aussi de subventions écologiques ou de subventions polluantes. Et je ne sais pas très bien si cela a un rapport avec le budget de la nation. Donc voilà, dans ce paysage, je n'y vois pas très clair et j'aurais voulu savoir un petit peu ce qu'il en était, que vous puissiez m'expliquer un peu tout ça. Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée. Au revoir, Denis.
Merci à vous. Avec un chiffre qui donne le vertige, 1500 milliards de subventions accordées à des activités polluantes, dont dans le monde. On va voir combien ça représente en France avec Guillaume Saint-Denis, qui est directeur de la chaire développement durable à l'École Polytechnique et qui est aussi auteur d'un excellent livre qui s'appelle « Plaidoyer pour l'éco-fiscalité ». C'est aux éditions Buchet-Chastel. Alors Guillaume Saint-Denis, dites-nous, donc d'abord définition, les subventions polluantes, qu'est-ce que c'est ?
Alors une subvention à la pollution, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être une subvention directe, publique, donc donnée par l'État à une activité polluante, directe ou indirecte. Ou ça peut être aussi une exonération fiscale ou une réduction de taxation sur des activités à caractère polluant, c'est-à-dire qu'ils ne payent pas le taux de fiscalité normal qu'elles devraient payer. Mais les grandes lignes, en gros, on voit ce que c'est. On tourne autour de 50 milliards d'euros oui. par an, ce qui inclut donc à la fois les subventions publiques directes et indirectes et ce qu'on appelle les dépenses fiscales, c'est-à-dire des recettes fiscales dont l'État se prive parce qu'il ne récolte pas les impôts que devraient acquitter ses activités.
Qu'est-ce qui est dans la ligne de mire que l'on comprenne bien ?
Ce qui est, je dirais, les grosses masses, pour qu'on voit bien à quoi ça fait référence. Il y a un exemple qu'on cite souvent, c'est l'exonération de fiscalité sur les carburants du transport aérien, qui représente 3,5 milliards d'euros par an pour la France, qui évidemment pose problème parce que c'est le mode de transport le plus polluant et également le moins social, d'une certaine manière. Donc, c'est une histoire qui remonte à il y a très longtemps, puisqu'en 1945, on a adopté une convention qui était la convention de Chicago, qui prévoyait cette exonération sur le plan international. Mais à l'époque, il y a deux choses qu'on n'avait pas anticipées. C'est d'une part l'essor extraordinaire que prendrait l'aviation commerciale, et d'autre part, le problème du changement climatique. Un autre exemple qui est davantage français, il est dans les taux réduits de taxes intérieures sur la consommation, c'est-à-dire de taux réduits de taxation des produits énergétiques, sur le gazole, qui est un coût de 7 milliards d'euros par an pour la France. C'est-à-dire que si le gazole était taxé de la même manière que l'essence, il y aurait 7 milliards d'euros qui rentreraient dans les caisses de l'État. C'est un exemple qui est très important d'avoir avec ce chiffre en tête, parce que pour la première fois, il y a eu pas mal de parlementaires, là, depuis quelques semaines, qui sont montés au créneau, de différentes tendances politiques en disant il faut vraiment maintenant avancer sur la fiscalité du gazole, étant donné tous les inconvénients que pose le gazole en termes de santé, oui. notamment de santé des enfants, de
particules fines. Les particules etc. fines que l'on connaît voilà. bien.
Il y a un vrai problème et il faut absolument rapprocher au moins ces deux fiscalités. Il y a un autre exemple qu'on connaît moins mais qui est aussi très important, qui est le taux réduit sur le fuel domestique, qui s'élève à près de 9 milliards d'euros de pertes fiscales par an oui. pour la France.
Alors, mais derrière tout ça, il y a évidemment du social. Vous imaginez bien qu'il y a encore énormément de personnes, de foyers qui se chauffent, mettons, au fioul. Beaucoup d'individus sont malheureusement en précarité énergétique. Donc, comment ça va s'arbitrer, quoi ?
C'est toute la question. Alors, il y a deux manières de faire ça. Donc, la loi Brottes avait choisi d'avoir un premier tarif à taux zéro ou à taux très bas.
On va dire low cost, quoi.
Et ensuite, voilà, et ensuite d'augmenter. Bon, ça, c'est la manière atténuation. Et il y a une autre manière qu'on appelle la manière compensation, c'est-à-dire que tout le monde paye une première tranche à un taux normal, ensuite ça augmente. Et par ailleurs, on compense les gens qui sont au-dessus d'un revenu minimum de ce qu'ils ont eu à payer pour la première tranche. L'avantage de cette solution, c'est que elle continue les gens qui sont à la première tranche continuent à avoir l'incitation à économiser de l'énergie. Alors que s'ils ne payent pas la première tranche, ils n'ont plus aucune incitation à économiser de l'énergie. Alors que dans la seconde solution, ils continuent à avoir cette incitation, mais ils n'ont pas de conséquences sociales parce qu'ils sont dédommagés de leurs conséquences sociales par un avoir fiscal ou quelque chose de ce genre.
Quelles sont en fait les subventions qui reviennent aux énergies fossiles et celles qui reviennent aux énergies renouvelables ?
Alors, sur l'énergie dans son ensemble, on considère que dans le monde, c'est à peu près 500 milliards de dollars par an. Et d'une manière générale, les trois quarts vont aux énergies fossiles, les trois quarts de ces subventions. Donc évidemment, ça pose un problème parce que, premièrement, ces énergies fossiles sont celles qui engendre le plus de dégâts environnementaux. Beaucoup de pays, y compris la France, par la voix du président de la République, veulent entrer dans ce qu'on appelle la transition énergétique maintenant. La transition énergétique suppose qu'on ait des prix de l'énergie fossile qui augmentent et des prix des énergies renouvelables qui baissent. Bon, alors les prix de l'énergie renouvelable baissent. Les prix des énergies fossiles augmentent de façon cas à cas parce que ça dépend du marché. Et s'ils n'augmentent pas de façon progressive, l'incitation aux économies d'énergie diminue, puisqu'on est incité à faire des économies d'énergie si les énergies fossiles augmentent. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est faire en sorte que peu à peu, ces subventions subventionnent moins les énergies fossiles et davantage les énergies renouvelables. Mais quand on dit que subventionner les énergies renouvelables coûte très cher, ça n'est qu'en partie vrai, parce qu'en fait, l'essentiel continue toujours à aller aux énergies fossiles.
Bon, donc il faut un courage politique différent, on va dire.
Il faut un courage politique. Il faut aussi voir que l'essentiel de l'industrie de l'énergie, ce sont des industries installées sur les énergies fossiles. Oui. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires des énergies fossiles est beaucoup plus important et la taille des entreprises est beaucoup plus importante. Donc ces entreprises-là, dans quelques pays qu'on soit, ont beaucoup plus de moyens d'accès aux canaux administratifs et politiques pour essayer de maintenir les subventions qu'elles ont quelquefois pour des raisons historiques et qui aujourd'hui ne seraient plus valables, qui l'ont été peut-être à une époque. Par exemple, la recherche-développement. Aujourd'hui, les subventions publiques à la recherche-développement vont beaucoup plus en France sur l'énergie fossile que sur l'énergie renouvelable. On pouvait le comprendre il y a quelques années. Aujourd'hui, il faudrait que ce soit l'inverse.
Quand on parle du logement neuf, quel est le rapport ?
Alors, le logement neuf peut avoir des impacts sur l'environnement selon l'endroit et la façon dont il est construit. Bon, si on construit, par exemple, des logements qui ne sont pas du tout isolés, il est clair que c'est une incitation à la déperdition d'énergie et donc de CO2, etc. Si on construit aussi des logements de façon en mitage, comme on dit, ou en étalement urbain, de façon non dense, c'est aussi une surconsommation d'espace, donc une imperméabilisation des sols, un mitage paysager, des logements qui sont moins isolés, etc.
Une plus grande distance domicile-travail.
Plus grande distance domicile-travail et aussi pour les loisirs. Donc on considère d'une manière générale que les logements qui sont construits en ville, dans les zones urbaines ou dans les dents creuses, etc., posent assez peu de problèmes environnementaux. Ceux qui sont construits de façon isolée ou de façon en étalement urbain consomment énormément de terres agricoles. Hein. On est sur quand même 90 000 hectares de terres agricoles qui sont consommées par an en France, ce qui n'est absolument pas soutenable dans le sens premier du terme. Consomment aussi d'autres terres, qui sont quelquefois des friches ou des biotopes intéressants, et contribuent évidemment à l'imperméabilisation des sols, qui va accentuer encore plus les problèmes de nappes phréatiques, de pollution des nappes phréatiques, de pollution des cours d'eau, puisque cette eau qui ruisselle sur un sol bitumé, qui lui-même a des pollutions atmosphériques qui se sont développées, déposées dessus.
Alors Guillaume Saint-Denis, où se trouve la subvention dans ce genre de cas ?
L'immobilier, ça représente 41 milliards d'euros de dépenses publiques en France par an, et cet argent est apparemment mal employé parce qu'avec ces 41 milliards, on n'est pas capable de construire les 500 000 logements dont les Français ont besoin. On considère qu'on a besoin de construire 500 000 logements en France, on en construit plutôt 350 000. Donc le fait qu'on ait besoin de ces logements, je crois, n'est pas en cause. Ce qui est en cause, c'est l'endroit où on les met. On a un exemple qui est intéressant, qui a été le prêt à taux zéro, qui est plutôt une bonne idée au départ, mais on s'est rendu compte que le prêt à taux zéro, en fait, a surtout financé des logements neufs en zone d'étalement urbain.
Alors, on va être en plein débat donc avec ce budget 2013. Quelles seraient pour vous, on va dire, les orientations, on va dire, un peu positives ? Aujourd'hui, on taxe, on le sait, énormément donc le travail, on taxe moins donc l'énergie. C'est cette bascule-là qu'il faudrait opérer ?
Oui, oui. D'ailleurs, je vous rappelle que c'est ce que le président de la République lui-même a dit dans son interview de rentrée à TF1, où il a annoncé un basculement des cotisations sociales vers soit la CSG, soit la TVA, soit des nouvelles prélèvements écologiques, selon l'expression qu'il a employée. Et ça a été de nouveau un de ses grands thèmes dans son discours du 16 septembre, si ma mémoire est bonne, lors de la conclusion de la conférence environnementale.
Guillaume Saint-Denis, quid de la taxation de l'énergie et de l'électricité en particulier ?
Là, la France est dans une position un peu particulière, puisqu'elle est au sein de l'Union européenne à 27, le pays qui taxe le moins son électricité, alors que l'Allemagne, par exemple, est le pays qui le taxe le plus. Beaucoup de gens disent, mais il faut absolument conserver cet avantage d'une électricité peu chère en France parce que c'est un avantage compétitif et c'est le dernier qui nous reste. Peut-être, mais moi je constate que le pays qui va le mieux en Europe, c'est l'Allemagne. Et le fait d'avoir une électricité très chère ne l'empêche pas d'exporter ses produits et d'être très compétitif. Donc on peut avoir une énergie chère, ce qui d'ailleurs incite beaucoup à économiser l'énergie. Et quand on voit l'efficience énergétique dans les 10 dernières années, elle a beaucoup augmenté en Allemagne parallèlement à cette augmentation de la fiscalité énergétique. Si on a par ailleurs d'autres intrants, comme par exemple le travail, qui sont moins chers.
Un garçon aux propos carrés qui a bien réfléchi sur le sujet, donc Guillaume Saint-Denis, je le rappelle, directeur de la chaire développement durable à l'école polytechnique, et donc auteur de ce plaidoyer pour l'éco-fiscalité aux éditions Buchet-Chastel. Et ça nous permet d'avoir une liaison sur le sujet suivant. On va parler de l'Allemagne, la sortie du nucléaire en Allemagne. Oui, oui, mais trois petits points. Heartbreaker, bah écoutez, là encore de la forme, Alice Russell, pour une jeune fille qui a manifestement le cœur brisé, comme l'indiquait sa chanson. Troisième question, on a eu une question sur le piment, donc on va dire assez naturaliste. On en aura une autre aussi en fin d'émission, sur les rivières. Et après les subventions polluantes, nous allons partir où cela, en Allemagne.
Bonjour Denis, je suis Christophe de la Garenne-Colombe, dans les Hauts-de-Seine. Alors je vous appelle car je sais que l'Allemagne vient récemment de décider d'abandonner totalement l'énergie nucléaire et qu'elle va se lancer dans un très grand programme d'énergie renouvelable. Alors j'ai pu comprendre qu'à court terme, pour compenser le manque d'énergie nucléaire, eh ben les Allemands ils vont être obligés apparemment d'ouvrir plusieurs nouvelles centrales au charbon. Mais ces centrales, elles produisent malheureusement beaucoup de CO2. Bref, en tout cas, est-ce que vous pourriez me dire un peu plus sur cette fameuse transition énergétique qu'opèrent les Allemands. Merci, à bientôt. Bon, alors, je ne sais pas comment on finit ça.
Bah, c'est pas mal, vous avez très bien terminé. Merci à vous. Donc, c'est la question qui est arrivée sur le répondeur de CO2, mon amour. Et donc, on va ouvrir ce dossier grâce à vous, Allemagne Énergie, avec Lise Joly, qui est notre correspondante à Berlin. Bonjour, Lise Joly.
Bonjour, Denis.
Alors, on va juste rappeler que le nucléaire, c'était 22% de l'électricité donc, en Allemagne, et qu'à l'horizon 2022, il n'y aura plus d'électricité d'origine nucléaire. Quels sont d'ailleurs aussi, historiquement, c'est intéressant de savoir quelles sont les origines, on va dire, du phénomène antinucléariste en Allemagne, Joly.
Alors on peut dire que trois quarts des citoyens allemands sont anti-nucléaires. On l'a vu l'an dernier au moment de Fukushima et au moment du dernier train de Castor qui rentrait de La Hague vers l'Allemagne. Et ça tient, comme vous l'avez dit, à l'histoire du pays. Des deux côtés, Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest, pendant la guerre froide, on redoutait justement que l'Allemagne soit une sorte de terrain de jeu pour les grandes puissances en matière de nucléaire. Imaginez un peu comment les Allemands pouvaient avoir froid dans le dos. Donc le mouvement anti-nucléaire a d'abord été un mouvement d'anti-nucléaire militaire. Dans les années 80, on se souvient des manifestations à Bonn contre les Pershing américains, et puis c'est devenu un mouvement contre le nucléaire civil et un mouvement qui est vraiment très ancré dans la société et qui a donc des fondements historiques.
Tandis que nous, évidemment, c'est une chose tout à fait différente puisqu'on a eu de la recherche nucléaire et puis le CEA était donc le fruit de la recherche militaro-civile. Andreas Rüdinger, vous qui travaillez sur ce sujet, vous êtes chercheur à l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Et vous êtes aussi donc d'origine allemande.
C'est ça.
Donc voilà, donc on a deux formes de culture qui sont différentes là.
Parfaitement. Donc je pense que ce qui vient d'être mentionné sur les différences historiques est parfaitement vrai. D'ailleurs, ça commence bien plus tôt, puisque l'Allemagne d'après-guerre n'a pas droit à la recherche nucléaire. Donc cette dimension qui est associée au nucléaire en France, dès le général de Gaulle, dès le lancement du programme nucléaire, l'idée de prestige et de grandeur n'existe pas en Allemagne. Effectivement, derrière, dans les années 80, il y a ces liens très forts qui se nouent entre la mouvance antinucléaire contre le nucléaire civil, qui existe d'ailleurs aussi dès les années 70, et la mouvance pacifiste.
Alors, Lise Joly, revenons maintenant au 21e siècle. Cette sortie du nucléaire pour définitif pour 2022, est-ce une vraie rupture ?
Oui et non, puisque souvenez-vous, le nucléaire a déjà été abandonné sous Schröder, la loi date de 2000. Alors Angela Merkel voulait revenir au nucléaire, mais elle a été contrainte d'y renoncer devant l'affront d'une majorité des citoyens, notamment au moment de Fukushima. Elle a donc fait un virage à 180 degrés et elle a décidé brutalement de fermer les plus vieilles centrales, 8 des plus vieux réacteurs. Alors du coup, aujourd'hui, il faut réadapter pour la quatrième fois la loi qu'on appelle ici EEG, la loi sur les énergies renouvelables. Car l'Allemagne veut que son énergie soit verte à 35% en 2020. On en est à 17% aujourd'hui. Alors ça touche le quotidien du citoyen parce que la facture d'électricité des Allemands va considérablement augmenter l'an prochain parce qu'il y a une taxe sur ces énergies pour les soutenir. Et cette taxe augmente de près de 50%. Et pour un couple, ça fait environ 90 euros par an de plus. En pleine période électorale, ça n'est pas terrible. Surtout que l'électricité est déjà chère ici et que, figurez-vous, que les grandes entreprises sont dispensées. Cette fameuse taxe, c'est la concession qu'Angela Merkel leur a faite.
Ce qui veut dire que ce seront les PME et donc les particuliers qui vont avaler cette taxe plus importante.
Absolument. Alors cette taxe pour soutenir les énergies, elle est faite pour construire bien sûr de nouvelles installations, des réseaux, payer l'électricité qui va être produite par ces énergies renouvelables. Mmh. Alors à quel prix c'est toute la question. Pas plus tard qu'hier après-midi, les 16 Länder et le gouvernement sont réunis pour parler de ces énergies renouvelables, de cette transition énergétique, comme on dit ici, car on est dans un pays fédéral et chaque land a sa solution pour booster ses énergies vertes. C'est même presque une compétition, le solaire, la biomasse, les éoliennes. Bref, ça donne des discussions interminables, car le développement économique, eh bien, figurez-vous que c'est du ressort des Länder.
Alors, Andreas Rüdinger, qu'est-ce que ça représente ? On parle de l'éolien terrestre, on parle du offshore, on parle du solaire. On sait que le vent est plutôt vers le nord et que l'industrie en Allemagne est plutôt vers le sud. Donc, il va falloir évidemment relier tout cela. Faites-nous un petit point, s'il vous plaît.
Alors, pour commencer à faire un petit point, déjà, on n'est plus à 17% d'énergie renouvelable dans le mix électrique aujourd'hui en Allemagne. Mais en 2012, on s'achemine plutôt vers 25%. On s'achemine plutôt vers une part des énergies renouvelables de 50% en 2020. Donc voilà, les choses vont très vite.
Alors ça va être quoi? Donc on parle de solaire, mais ça va être des grosses fermes solaires ou bien comment ça va se faire?
La grande majorité du solaire en Allemagne est sur des toits. Donc toutes les installations sur terre agricole ont été interdites. Aujourd'hui, la grande majorité, on va dire à peu près les plus des deux tiers du photovoltaïque, est installée sur des toits et notamment des toitures collectives. Donc c'est des grandes installations en toiture.
Mais ce sera donc disséminé, hein, que l'on comprenne bien.
Très disséminé. Pour vous donner un ordre de grandeur, puisqu'on a fait les calculs pour l'Allemagne, mais aussi pour la France, pour s'imaginer qu'est-ce que ça donnerait si la France faisait un projet un peu équivalent, c'est-à-dire arriver à 50 gigawatts, donc presque la puissance du parc nucléaire français d'aujourd'hui en 2020.
Qui doit être de 63-65 gigawatts.
Voilà, c'est ça. Et dans ce cas-là, on serait à peu près à 0,6% de la superficie française couverte par des panneaux photovoltaïques. Donc ça fait très peu, sachant que de l'autre côté, on a 9% de surface artificialisée en France qui pourrait accueillir des installations photovoltaïques, donc des toitures tournées vers le sud, etc.
Mais les gens vont vous dire, oui, mais la nuit en Allemagne, et comme en France, point commun, il n'y a pas de soleil.
D'où donc l'importance de jouer sur la complémentarité des énergies renouvelables. L'énergie hydraulique peut avoir tout son intérêt là-dedans, et d'ailleurs, dans ce domaine-là, on est bien mieux doté en France qu'en Allemagne.
12% à peu près.
Et puis, également, la complémentarité avec les centrales biomasse, donc les centrales à biogaz. On sait que l'Allemagne est très avancée en matière de ce qu'on appelle la méthanisation, donc la transformation de biodéchets en biogaz.
Et donc, il faut relier tout cela. Donc là, il va y avoir de véritables grands travaux. Ligeoli donc nous l'a dit, pour relier entre la mer du Nord et le Sud, mais aussi que moderniser tout ce réseau.
Exactement. Alors, le grand défi, on dira, de ces tournants énergétiques allemands aujourd'hui même, c'est justement la question des infrastructures réseau. Comme je vous disais à l'instant, la question du développement quantitatif des énergies renouvelables s'est fait plutôt bien. Mais sur la question du développement qualitatif, effectivement, des études ont montré qu'on manquait à peu près de 3000 km d'infrastructures réseau de lignes à haute tension pour notamment acheminer l'énergie éolienne offshore, donc en mer, vers les centres industriels grands consommateurs en Allemagne du Sud.
Ligeoli, vous voulez rajouter quelque chose sur le solaire?
Oui, un petit bémol sur le solaire. Il faut savoir qu'ici, comme en France d'ailleurs, les entreprises qui fabriquent des panneaux solaires subissent de plein fouet la concurrence avec les fabricants chinois qui produisent beaucoup moins cher. Et donc, pas mal d'entreprises ont fermé dans le domaine du solaire. Et puis, les subventions ont été là aussi à un moment arrêtées.
Alors parlons maintenant quand même du charbon, donc c'était aussi la question de notre auditeur. On rouvre actuellement donc des centrales à charbon, des centrales à gaz supplémentaires, Lise ?
Oui, tout à fait. On en remplace en tout cas un certain nombre, la plupart du temps par des centrales à gaz, hein, mais en tout cas par des centrales à charbon qui sont moins polluantes et plus performantes. Et puis les énergies vertes, hein, faut le souligner aussi, ont permis de renouveler quasiment les deux tiers de ce qui était produit par les 8 vieux réacteurs qui ont été fermés. Et puis comme le soulignait votre invité, un bond de 20% en 2011 pour le solaire et l'éolien, c'est considérable, ça va très très vite. Donc on ne peut pas vraiment dire que l'Allemagne sorte du nucléaire en polluant davantage. Pour l'instant, en tout cas, on ne le constate pas. Reste à savoir ce que ça va donner dans l'avenir, puisque la fermeture des réacteurs est quand même très récente. Enfin, il y a encore un autre bémol à rajouter. Quelle sera la facture du démantèlement des vieux réacteurs? On ne sait pas encore vraiment. On parle de 300, 700 milliards d'euros, on ne sait pas trop. Et ça aussi, probablement, c'est le consommateur ou bien le contribuable qu'il paiera.
Ah ben voilà, c'est un point commun aussi avec la France. Andreas Rüdinger, donc toujours chercheur à l'IDRI, en ce qui concerne donc ces centrales à charbon, ces nouvelles centrales à gaz, est-ce que ça va rajouter des gaz à effet de serre ou...
Effectivement, nous, on a publié une étude en avril 2012 sur cette question-là des émissions, de l'impact en fait, des décisions post-Fukushima sur les objectifs climat de l'Allemagne. Effectivement, sur 2011, grâce à l'apport significatif des renouvelables, l'Allemagne n'a pas augmenté ses émissions cette année-là. Elle est toujours en voie de réussir son objectif très ambitieux de 40% en 2020. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, avec cette contrainte supplémentaire qui est venue de la fermeture des centrales nucléaires, il faudra davantage agir sur d'autres leviers, et notamment l'efficacité énergétique dans le bâtiment. Puisque le chauffage en Allemagne, c'est grosso modo à 70% des énergies fossiles.
Donc, il va passer par de l'isolation principalement.
Exactement.
Avec des murs qui vont avoir une peau différente.
Mais également des nouveaux systèmes de chauffage. Donc, par exemple, dans le neuf en Allemagne, dans les logements neufs, aujourd'hui, 25% comportent une pompe à chaleur, ce qui est quand même considérable. Donc, on voit bien qu'il y a une mutation dans le secteur du bâtiment à ce niveau-là.
Alors, en ce qui concerne les prix aussi, l'un et l'autre, aujourd'hui, on voit à peu près 25 à 26 centimes du kilowattheure pour un Allemand, 14 centimes pour un Français. Donc là, c'est l'électricité la moins chère aujourd'hui d'Europe. Demain, ça va être quoi? Et comment ça peut être accepté, Ligioli? Parce que j'ai vu un sondage intéressant, 93% de la population allemande, en fait, est tout à fait favorable aux énergies renouvelables.
Oui, d'accord, mais ils sont moins favorables, ces 93%, l'augmentation de la taxe qui se rajoute au prix du kilowattheure, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, cette taxe va augmenter de 50%, ce qui est énorme pour soutenir ces énergies renouvelables.
On va juste dire que c'est l'équivalent pour nous sur notre facture EDF de la contribution au service public électrique.
Je vous le disais tout à l'heure, pour un ménage de deux personnes, ça représente 90 euros par an. Et là, les citoyens sont beaucoup moins enthousiastes à l'idée de payer une facture beaucoup plus chère, d'autant plus que l'électricité, comme vous l'avez souligné, en Allemagne est beaucoup plus chère qu'en France, plus du double.
Quelques précisions là-dessus. Il y a également eu un sondage récent qui montre qu'une grande partie des Allemands, donc environ les trois quarts, sont toujours favorables au maintien de cette contribution pour les énergies renouvelables. Et qui estime que son montant reste pour l'instant acceptable, voire qu'il pourrait encore augmenter. Donc il y a toujours un soutien pour ce projet de tournant énergétique. Ensuite, dans la comparaison des prix de l'électricité, c'est très intéressant de voir ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas uniquement cette question de la contribution à l'énergie renouvelable, mais le fait que l'Allemagne a depuis 1998, donc en parallèle avec le projet de sortie du nucléaire, lancé un vaste programme de réforme de la fiscalité pour aller vers une fiscalité écologique, et qu'elle a, dans ce cadre-là, notamment introduit une taxe qui s'appelle taxe écologique sur l'électricité, qui aujourd'hui est de 2 centimes d'euros par kilowattheure, donc qui déjà représente le double de notre CSPE en France, et qui vise uniquement à alourdir les charges sur l'énergie pour alléger les charges sociales sur le travail et donc ainsi favoriser l'emploi.
Et alors, contrairement à ce qu'on a dit, l'Allemagne n'achète pas davantage d'électricité nucléaire française pour compenser la fermeture de ses 8 réacteurs. En gros, les échanges sont restés à peu près les mêmes. Et vous savez que l'Allemagne exporte même en hiver à la France de l'électricité quand la France en a besoin et en manque.
Andreas Rüdinger, nous, on est quand même, enfin, c'est tout à fait autre chose. On sait que c'est un bastion donc, du nucléaire. On va peut-être arriver à avoir donc 50% d'électricité d'origine nucléaire au lieu de 75%. On l'a bien compris, culturellement, ce sont des pays qui sont tout à fait différents. Bon, donc on ne peut pas véritablement comparer. Mais ça va être quoi, quand même, le sens de l'histoire que vous voyez actuellement chez nous, aussi dans notre pays?
Je pense qu'en France, effectivement, cette annonce-là, faite par François Hollande pendant la campagne électorale, permet effectivement d'ouvrir en France la question plus large de quelle vision politique de l'énergie on a à un horizon plus lointain, donc qui serait 2050. On sait qu'on a déjà l'objectif du facteur 4, donc de diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Mais au niveau de l'énergie, on a aujourd'hui très peu d'idées de comment on va continuer, sachant que nos centrales nucléaires, on ne pourra pas les faire fonctionner éternellement.
Elles ont une carte vermeille bientôt.
Voilà, et qu'il faut donc réfléchir à la question soit du renouvellement du parc, soit du remplacement du parc.
Effectivement, on va le faire passer de 30 à 40 ans, mais pas forcément de 40 à 50 et de 50 à 60.
Oui, simplement. Et puis cette décision de l'Allemagne de sortir du nucléaire, elle l'a pris pour elle-même, sans consulter les autres Européens. Elle a un petit peu fait cavalier seul dans ce domaine. Et en fait, tout le monde fait la même chose en Europe. Il n'y a pas de stratégie européenne en ce qui concerne l'énergie. Et ça, c'est un vrai problème.
Il y a effectivement aujourd'hui un besoin de faire plus. Et d'ailleurs, comme l'a annoncé François Hollande, il veut œuvrer pour une vraie Europe de l'énergie. Et c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui, notamment dans la perspective du développement des énergies renouvelables, qui fait partie des objectifs européens, et pour laquelle il faut aujourd'hui jouer sur la complémentarité entre les mix énergétiques européens.
De toute façon, économie d'énergie, efficacité énergétique et énergie renouvelable. Mais économie, efficacité, c'est aussi fondamental.
C'est fondamental. C'est pour moi le levier central de la transition énergétique.
Andreas Rüdinger, pour bien comprendre le succès des énergies renouvelables en Allemagne, quel est le rôle du citoyen d'un point de vue participatif?
Il a un rôle très important en Allemagne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans cet énorme parc d'énergie renouvelable construit dans les 10 dernières années, les citoyens sont directement en possession de plus de 50% des capacités renouvelables. toutes sources confondues, éolien, photovoltaïque, biomasse. Ça se fait notamment grâce aux coopératives de l'énergie. Et c'est très intéressant, notamment pour comprendre pourquoi ils soutiennent toujours ces tournants énergétiques. Il faut d'ailleurs rappeler qu'en France, il y a des initiatives similaires qui ont été lancées, notamment Énergie Partagée Investissement, qui essaye de faire ces modèles coopératifs au niveau national en France.
Intéressant hein, de voir comment ça se passe. Donc, grand merci à Lise Joly, notre correspondante, notre Madame Allemagne donc, à Berlin. À Andreas Rüdinger, donc, chercheur à l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales, donc, qui s'occupe du pôle énergie et climat. Et puis, allez voir sur le site hein, de CO2 Mon Amour, parce qu'il y a quand même pas mal de liens qui sont intéressants sur ce thème que nous avons abordé. Il nous reste encore une question oui, qui va nous emmener au bord du Lot. Je ne vous en dis pas plus. Ce sera après qui ? Oh, bon, vous le connaissez.
Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Chaque jour un peu plus, il y a le jazz qui s'installe. Alors la rage au cœur, la java fait la malle. Ses petites fesses en bataille sous sa jupe fendue. Elle écrase sa gauloise et s'en va dans la rue. Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Quand j'écoute Béar un solo de batterie, v'là la java qui râle au nom de la patrie. Mais quand je crie bravo à l'accordéoniste, c'est le jazz qui m'engueule me traitant de raciste. Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Pour moi, jazz et java, c'est du pareil au même. Je me saoule à la Bastille et noircis à Harlem. Pour moi, jazz et java, dans le fond, c'est tout comme quand le jazz dit gomène, la java dit gomme. Mais quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Jazz et java copains, ça doit pouvoir se faire. Pour qu'il en soit ainsi, tiens, je partage en frère. Je donne au jazz mes pieds pour marquer son tempo. Et je donne à la java mes mains pour le bas de son dos. Et je donne à la java mes mains pour le bas de son dos.
Il vaut mieux pomper, même s'il ne se passe rien, que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas.
CO2, mon amour.
Voilà, réflexion pendant au moins 10 minutes et de la Garonne jusqu'au Lot, la Garonne de Nougaro au Lot, il y a une question.
Bonjour David, c'est Jean-Paul dans le Poitou. Nous nous promenons le week-end au bord de l'eau avec ma famille et je voudrais savoir comment on peut en mesurer la qualité. Merci de me répondre.
Alors il y a bien sûr les prélèvements et analyses chimiques, entre autres, pour analyser les sédiments, la température, l'oxygène, les nitrates, les phosphates, j'en passe des meilleurs, et des métaux lourds. Et puis, il y a aussi d'autres méthodes qui sont tout à fait intéressantes. Bonjour François Maguigné.
Bonjour Denis.
Votre titre précis sur la pêche.
Alors, président délégué de la Fédération de la Lozère pour la pêche et la protection des milieux aquatiques.
Et nous sommes au bord du Lot, qui n'est pas encore très gros, mais parce que donc il prend sa source ici, pas très loin de chez vous d'ailleurs.
Quelques kilomètres, à 12 kilomètres d'ici. Nous sommes donc dans la haute vallée du Lot.
Et donc pour là ce Lot va très bien, mais comment prend-on, on va dire, le pouls d'une rivière pour connaître sa qualité?
Lorsqu'un pêcheur de truite, parce que ici, Denis, nous sommes au bord d'une rivière à présence de truite, à Salmonidae.
Ça s'appelle les rivières de première catégorie.
Rivière de première catégorie. Lorsqu'un pêcheur de truite initie un jeune pêcheur, la première chose qu'il fait, il va au bord de l'eau et puis il soulève les pierres. Et vous savez pourquoi il soulève les pierres?
Parce qu'il va y avoir des bêtes dessous.
Parce qu'il y a des insectes aquatiques. Et selon la qualité de ces insectes, il va montrer au jeune pêcheur, il va lui dire là c'est une larve de telle catégorie, là c'en est une autre, enfin, etc. Et la qualité de ces larves va déterminer la qualité du milieu, que ce soit la qualité physique, physico-chimique de l'eau ou la qualité morphologique du milieu.
C'est-à-dire qu'il y a des bêtes qui, si la qualité n'était pas bonne, ne pourraient pas vivre dans cette eau-là.
Voilà, et comme la nature horreur du vide, seraient remplacées par d'autres espèces de larves qui, elles, sont adaptées à ce milieu-là.
Donc, qui encaisseront mieux certaines pollutions.
Exactement, pollution ou modification morphologique du milieu. Lorsqu'une rivière va s'envaser, on va avoir tel type d'insectes aquatiques, on va en voir disparaître d'autres. Donc, ce qui est intéressant dans ces études-là, il faut faire un point zéro, bien entendu, parce qu'on ne peut comparer que lorsqu'on a une antériorité, une connaissance antérieure du milieu, on fait un point zéro, et puis chaque année, on va étudier l'évolution. Et c'est comme ça qu'en appréciant, en comptabilisant le nombre de larves, en appréciant leur qualité, on va pouvoir apprécier les évolutions du milieu, encore une fois sur le plan de la qualité physico-chimique de l'eau, mais sur le plan de la morphologie également, parce que c'est important. La morphologie du milieu va conditionner les espèces aquatiques qui y vont.
Ce qu'on appelle la morphologie, c'est-à-dire la manière dont va s'écouler, par exemple, la rivière.
Voilà, dont le milieu va se modifier, l'écoulement, les substrats, enfin, tout ce qui constitue le substrat, le fond de la rivière, les caches, les pierres, enfin, tout ce que l'auditeur peut s'imaginer qui constitue l'habitat du poisson, des larves, enfin, de toutes les espèces qui vivent.
Là, on parle bien sûr des animaux qui sont tout petits, mais si par bonheur on a une loutre, ou bien peut-être des écrevisses, on peut se dire que la qualité est bonne aussi, quoi.
Ça dépend de quelle. Alors la loutre, on l'identifie assez bien. C'est une preuve qu'il y a du poisson, mais pas forcément les poissons qui intéressent le prêcheur de première catégorie. Vous pouvez aussi avoir du poisson blanc. Donc c'est ce que l'on trouve sur certaines rivières. Le poisson blanc étant beaucoup plus tolérant à des pollutions, à des eaux qui se réchauffent, et à une eau de moins bonne qualité physico-chimique, on peut avoir de la loutre, mais ça ne traduit pas forcément une très très bonne qualité d'eau. La loutre, certes, revient parce qu'elle est plus chassée, elle est protégée désormais. Alors on nous dit, mais la loutre revient, donc c'est qu'elle la truite. Non, pas forcément. Il y a aussi d'autres espèces qui sont plus invasives et surtout plus résistantes.
Je vous ai parlé de l'écrevisse.
Alors quant à l'écrevisse de Nîmes, malheureusement, nous avons une invasion, mais ça n'est pas qu'en Lozère, de ce qu'on appelle l'écrevisse signale, une écrevisse américaine qui est très volumineuse, beaucoup plus volumineuse que l'écrevisse à patte blanche, qui est l'écrevisse indigène, et qui malheureusement est très invasive, très agressive, et qui remonte les cours d'eau, même les plus petits cours d'eau, puisqu'on en a sur des petits cours d'eau argerie, et beaucoup plus.
Elle colonise. Quoi.
Elle colonise, ouais. et supprime l'écrevisse à patte blanche. C'est un véritable drame pour nos rivières.
Et ce qu'on appelle donc les seuils, autrement dit, donc, ce serait souvent des barrages plus ou moins importants qui sont là pour principalement faire tourner des turbines. Bon, là, on n'en a pas. Là, je vois là sur le Lot, là c'est très bien. Mais je sais qu'un peu plus loin, par exemple, sur le Tarn, vous en avez, comme il y en a un peu partout en France. Donc là aussi, ça, ce sont des obstacles et ça peut modifier la qualité d'une rivière.
Ah, bien entendu, ça modifie, et puis surtout ça retient tous les emports de la rivière, tout ce que la rivière peut amener en granulométrie qui va permettre la constitution des frayères. Et c'est vrai que lorsqu'on a un barrage, on arrête tous ces emports-là et ça peut en aval appauvrir la rivière. C'est d'ailleurs ce qu'on a pu constater à l'époque, il y a une trentaine d'années de ça. Il y avait des carrières importantes sur le Haut-Tarn et on a progressivement vu les frayères disparaître parce que tous ces granulats étaient prélevés dans le lit de la rivière. Les frayères finissaient par s'appauvrir justement en raison de ces ouvrages, mais également de prélèvements excessifs de granulats.
Merci à François Maguigné, homme du Lot et de la Lozère, hein, donc qui part du Lot. Merci à lui, merci à tous nos intervenants, à Fabrice Lègle qui a réalisé cette émission, Anne Gouzon qui a nourri les sites, et moi je vous retrouve demain à la Tulu, mon petit loup, ce sera à 19h54 après les petits bateaux.